êtes en relation avec Radio Galère à Marseille et avec l'édition hebdomadaire des carnets de Comaguer pour faire le point sur l'actualité nationale et internationale. Alors, je vais commencer par un sujet qu'on n'a pas préparé avec mon équipe, Habib, que je salue. Bonjour, Habib.
Bonjour.
Et Roselyne, qui est dans la cabine, que je salue aussi, que je remercie.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voulais dire, alors, moi, je vais dire quelques mots sur Marseille. Alors, je me place du point de vue des médias. Et vous savez, pour préparer cette émission, donc je consulte beaucoup de médias du monde entier. Et donc, les événements de ces derniers jours ont mis le nom de Marseille sur la une de tous les journaux c'est Internet. Ça. Alors, j'ai réalisé à ce moment-là, et j'essaye de vous faire partager mon impression, puis je demanderai après à Roselyne et à Habib de dire ce qu'ils en pensent, qu'en fait, quand on dit Marseille dans un quotidien de Los Angeles, on voit 800 000 habitants en folie. Hein. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'abord, première chose, mon observation, et vous compléterez ou vous m'infirmerez, c'est que ce qu'on vous a présenté comme des saccages, une émeute et tout, c'était extrêmement localisé. C'est-à-dire que ça n'a touché, à ce que j'en ai vu de mes yeux après, pas pendant, que les magasins, que le centre-ville stricto sensu. Et alors, apparemment aussi quelques supermarchés dans les quartiers plus populaires. Mais au fond, donc, quand on vous dit Marseille est en feu, vous pouviez très bien, dans les journées qui viennent de s'écouler, circuler dans certains quartiers de Marseille et ne vous rendre compte de rien du tout. Et ce que vous saviez, vous l'aviez appris, soit par les réseaux sociaux, par votre compte Facebook ou je ne sais quoi, ou en écoutant les informations, quelle que soit la chaîne que vous écoutiez. Donc la perception d'un Marseille en feu est une perception erronée, mais ça fait partie du monde médiatique dans lequel on se trouve, c'est-à-dire qu'on colle une étiquette, alors ça fait joli, Paris, Lyon, Marseille, et on a l'impression que la France va s'effondrer. Bon, elle ne s'est pas effondrée, on a simplement atteint un niveau de violence élevé, porté par un nombre peut-être même probablement pas très important de personnes. Alors, la caractéristique qui a été avancée, c'est qu'ils étaient jeunes. Ça semble se vérifier en fonction de ce qu'on a vu ensuite des gardes à vue et des arrestations. Est-ce qu'ils étaient seuls à l'origine ou est-ce qu'ils étaient seuls à avoir eu l'idée ou est-ce que quelqu'un leur avait donné l'idée de faire ça? Est-ce qu'ils l'avaient trouvé tout seul? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de le dire. Il faudrait pouvoir avoir des contacts avec des familles ou avec des mamans qui ont dit à leur fils ou à leur fille « Non, non, n'y va pas, etc. » Et quelle a été la réponse du garçon ou de la fille qui a été dit « Oui, mais les copains m'ont dit ça, etc. » Bon, il y a tout ça. Parce qu'on a vu à la fois des vols dans des magasins de produits de consommation courante, pas trop de téléphones d'ailleurs, mais apparemment plutôt dans les habits. Et puis on a vu aussi quelques supermarchés où les jeunes sont venus faire leur marché, c'est-à-dire ils ont pris de quoi manger, ce qui renvoie à une situation économique de leur famille et de leur quartier. Bon, alors il y a tout ça. Je ne peux pas en dire plus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur Marseille est en feu? Non, Marseille n'était pas en feu. Il y avait des touristes qui continuaient à se promener, qui probablement ne sont rendus compte de rien du tout. Et puis il y avait des quartiers où on ne voyait rien parce qu'il ne se passait rien. Hein, les boutiques continuaient à être ouvertes, etc. Donc, je voulais mettre ça en avant pour bien expliquer que la mondialisation médiatique d'un événement lui donne une taille qu'il a peut-être, mais qu'il n'a pas forcément. Et que donc, la première réaction d'honnêteté journalistique que j'essaye d'avoir, c'est de dire, bon, essayons de donner les proportions de la chose, l'endroit où elle a eu lieu, qu'est-ce que ça a concerné, qui a été touché. Après, sur le phénomène, enfin, la liquidation, l'assassinat de Naël, du jeune homme, il n'y a plus aucun doute. Et heureusement qu'il y a eu un téléphone qui a fait une vidéo. Hein, ça, c'est très bien. Parce qu'autrement, effectivement, ça serait, hélas, sans doute terminé comme d'autres crimes de ce type-là. Bon, ça ne pourra pas se terminer comme ça. Mais ça, c'est tout. La deuxième observation que je fais, ou alors non, je vais laisser Habib et Roselyne en faire s'ils ont envie d'en faire, sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont ressenti. Moi, je vous donne ça, brut, tel que c'est. J'ai réfléchi, je vais avoir des auditeurs situés dans toute la France, même au-delà. Est-ce que je vais leur dire que Marseille brûle, que j'ai eu peur de sortir de chez moi? Non, j'ai fait mes courses, je suis allé chez le boulanger, je suis allé au supermarché. Il ne se passait rien. Alors, il y avait un peu, on sentait dans les conversations, tu as vu hier soir à la télévision, ou tu as vu, mais c'était déjà du récit au deuxième degré, c'était pas des témoignages. de ce qui avait été vécu. Et ça, c'est le bain dans lequel nous sommes, c'est le bain dans lequel il faut que nous habitions à garder notre esprit froid. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a été dit, par qui ? Est-ce que c'était une première information de première source ? Est-ce que c'était déjà un colportage d'une autre information qui a été déformée, amplifiée et tout ? Le monde médiatique est compliqué à décortiquer. Voilà. Je sais pas. Donc, Habib, Roselyne, si vous avez un mot à ajouter là-dessus, je vous laisse
enfin,
faire.
Enfin, moi, l'impression que ça m'a donné, d'après les médias actuellement en France, on avait l'impression que la France est en feu.
Voilà.
Ça, c'est vrai. C'est ça. Alors qu'il y a quand même, je nie pas quand même qu'il n'y a pas eu des saccages, des trucs... Mais c'est pas tout.
Non, voilà, c'est pas tout et c'est pas toute la France.
Ouais, c'est pas toute la France. Et puis il y a eu un mort quand même. Il y avait un mort.
Tout à fait.
Exactement.
Qui ne méritait pas d'être tué.
Et puis on en parle guère qu'il y a dans un certain milieu en France le racisme et il existe. Mais il est fort.
Mais bien sûr.
Actuellement.
Mais bien sûr. Voilà.
Alors bon. C'est tout ce que j'ai à dire.
Hein. Oui, vous m'entendez ?
Roselyne, on t'entend très bien,
oui,
vas-y.
Oui, moi je vous rejoins tous les deux. Alors effectivement, moi j'ai de la famille à l'étranger qui s'inquiétait beaucoup, qui nous ont téléphoné pour nous dire voilà ce qu'on nous raconte. Et donc je les ai rassurés en disant la même chose que toi. Après, ça se passe la nuit aussi. Hein. En journée, moi j'ai rien vu. Et le lendemain... Enfin, il y a peut-être eu des choses en journée, mais moi, je n'ai rien vu, effectivement.
Non, c'était le soir.
Voilà. Et puis, c'est vrai que moi, le lendemain de ces émeutes, j'ai marché en ville, comme d'habitude, et j'ai cru qu'ils avaient tout nettoyé, puisqu'il y avait eu tant de détérioration et de saccage, et que je ne voyais rien dans la rue. J'ai vraiment cru que la ville avait tout nettoyé pour ne pas laisser de traces. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, alors, voilà. Je pense qu'il y a eu nettoyage, au moins dans les quartiers hyper touristiques, pour l'image, hein, ça c'est sûr. Mais par ailleurs, il y avait des poubelles pas ramassées dans d'autres endroits qui n'avaient pas brûlé. Hein. Il y a beaucoup de poubelles qui n'ont pas brûlé. Hein. C'est ça qu'il faut dire aussi. Donc oui, on revient sur cette image, une déformation. Marseille en feu, c'est pas exactement comme ça. Et donc la taille de l'événement, elle est importante parce qu'il y a effectivement une mort inutile et qui est clairement un assassinat. Donc bon, ça c'est la justice qui tranchera. J'accepte même pas que Macron dise c'est inexcusable. De quoi je me mêle ? Hein, c'est au magistrat de faire le travail. Hein. Macron, il fait ça, il parle comme d'habitude, il parle sans réfléchir, pour faire joli, pour avoir toujours son mot à dire. Il aurait mieux fait de se taire. Ce n'est pas son boulot. Son boulot serait de dire, est-ce que la France, est-ce que les Français considèrent que ce pays dont je suis le président est bien gouverné ? Et la réponse, elle est massive. Il est mal gouverné. Parce que ces jeunes gens-là qu'on a vus dans les rues et qui ont mis le feu à des poubelles ou qui ont cassé des vitrines, qu'est-ce qu'ils ont pu entendre au moment du mouvement sur les retraites, dans leur famille, chez leurs copains, au collège ? La politique de Macron, personne ne la supporte. Donc il y a une perte totale de légitimité du pouvoir politique. Et donc tout peut arriver. Parce que... alors. Perte de légitimité du pouvoir politique, du président, perte de légitimité du Parlement qui n'a servi à rien.
En plus de ça, le plus fort, c'est que d'après ce que j'ai entendu, il a fait appel à Israël.
Ah oui, alors oui, voilà.
Ça, c'est terrible.
Ah, ça,
la
j'ai
France,
pas vu.
Qui est un grand pays, un pays...
Non, mais ah oui, Israël spécialiste de la surveillance électronique, de la vidéo, des drones espions, etc. Non, mais alors en plus, à Marseille, on sait ça depuis longtemps, puisque la municipalité Gaudin, qui a précédé celle-ci, avait beaucoup acheté de matériel de surveillance à Israël. Donc on n'est pas surpris du tout. Mais c'est assez... Alors ça veut dire que la France est plus capable de faire quoi que ce soit. Ou alors que... les Israéliens sont assez astucieux pour arriver au bureau.
Ça prouve que les Israéliens, ils s'en servent des vraies armes. Ils tuent le pauvre Palestinien.
Mais exactement.
Et alors, il fait appel à Israël. Voilà, c'est fou, ça.
Voilà, tout à fait. Donc, perte de légitimité du Parlement, qui a servi à rien, qui a essayé ceux qui ont essayé n'ont pas abouti. Perte de légitimité du Conseil constitutionnel, s'est couché, qui a confirmé qu'il ne servait à rien. Et alors, je reviens là-dessus, parce que la perte de légitimité du Parlement est en train de continuer. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Le Parlement est en train de procéder à l'examen et va donc voter la loi de programmation militaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi de programmation militaire ? C'est une loi qui s'étale, qui prend des engagements sur 5 ans. Alors, pourquoi prendre des engagements sur 5 ans ? Parce qu'effectivement, quand vous construisez un porte-avions, vous ne le finissez pas à la fin de l'année où vous l'avez commencé. Donc, il faut que, si vous avez décidé de construire un porte-avions, ce qui est le cas, il faut à un moment donné, la première année, mettre un certain nombre de centaines de millions sur la table, mais il faut continuer la deuxième année, puis la troisième, puis la quatrième, pour au bout de la 5e ou 6e ou 7e année, avoir un porte-avions fini. Effectivement, si on s'arrête en route, on a jeté l'argent public par les fenêtres. C'est-à-dire, le porte-avions n'est pas fini. Bon. Et donc, il y a bien nécessité de programmation. Je souligne quand même que cette nécessité de programmation ne devrait pas s'appliquer aux seules questions militaires. S'il y avait une loi de programmation sur le logement décent pour tous, étalé sur 5 ans. De quoi faire pour 5 ans. Et il ne faut pas que, tout d'un coup, une restriction de crédit ou l'augmentation des taux d'intérêt des banques empêche les logeurs, les bailleurs sociaux, comme on dit, de continuer à programmer des constructions de nouveaux logements. C'est la même chose. Alors là, on a abandonné les néolibéraux qui nous gouvernent, ont abandonné toute référence à la notion de programmation ou de planification. Hein, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête, c'est le socialisme, etc. Mais il y a des choses sérieuses qui ne se font pas dans l'année. Donc la règle de l'annualité budgétaire, le budget de l'État, il est voté tous les ans par le Parlement, s'arrête au moment où on a affaire à des programmes à long terme, des politiques à long terme. Et donc j'insiste sur le fait que ce n'est pas raisonnable qu'il n'y ait que la programmation militaire qui donne lieu à ce genre de procédure. Il devrait y avoir des plans à long terme pour l'agriculture, pour la lutte contre, je ne sais pas quoi, la délinquance, pour, etc. Là, on en est loin. Ah, c'est la liberté de manœuvre, on fait rien, on planifie rien.
Ben, si enfin, en principe, moi, d'après ce que je comprends, depuis son deuxième élection, Macron a commis des fautes. Grandes fautes. Voilà. Bon, d'abord avec les Gilets jaunes.
Oui, c'est ça, c'était le premier mandat.
C'était le premier, oui.
Oui, non, mais ça continue.
Puis après, il y a eu la retraite. Justement, après, il y a eu la retraite. Puis il y a eu le problème de l'Ukraine. Voilà. Où il a voulu faire des ailes en allant voir Poutine ou je ne sais pas quoi. Et puis finalement, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à rien. Il n'a pas
Il a envoyé du matériel.
Voilà. Ouais, il a envoyé du matériel et même, je ne sais pas s'il n'a pas envoyé quelques millions d'euros.
Ça a été dit. Voilà.
Alors finalement, ça va d'échec en échec.
Tout à fait. On en est à se dire, parti comme il est ce deuxième quinquennat, est très très mal engagé et là, on ne voit pas sortir un élément de progrès. Reviens sur ma loi de programmation militaire, parce que je vais vous parler d'un article 23. Alors, ne lisez pas la loi de programmation militaire, parce que cet article 23 prévoit des réquisitions en cas de nécessité, c'est-à-dire en cas de guerre. Hein. Réquisitionner, ça veut dire que l'État, donc ça peut être le préfet du département, vient chez vous et vous dit, à partir de demain, par exemple, j'ai besoin de votre garage pour loger un véhicule de la gendarmerie, par exemple. Hein, ou j'ai besoin de votre terrain pour stocker des munitions, en fait, des choses comme ça. Ou j'ai besoin de votre appartement parce que j'ai besoin de loger des officiers que je ne sais pas où mettre, etc. Bon, c'est ça une réquisition. Alors, on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque au moins dans la zone nord, les Allemands réquisitionnaient avec la complicité du pouvoir de Vichy, réquisitionner des locaux et que vous pouviez avoir chez vous un officier allemand qui dormait parce qu'il était logé là. Alors, je fais référence, si vous l'avez jamais lu, mais lisez-le, à l'extraordinaire roman de Vercors qui s'appelle « Le silence de la mer ». Officier allemand qui loge chez des Français. Et les rapports humains qui se développent à partir de la présence de ce personnage. Bon, c'est ça, la réquisition. Mais la réquisition, donc, elle est dans ces articles 23 de la loi de programmation militaire. Elle n'a rien à y faire. Ça n'a rien à voir avec le budget pour financer un porte-avions ou des avions de chasse. Hein. On est en train de modifier le code de la défense. Il y a un code de la défense. En insérant un nouvel article qui devrait être dans une délibération sur le code de la défense, dans une loi qui n'est pas faite pour ça. C'est-à-dire que Borne et Macron, une nouvelle fois, trichent comme ils l'ont fait pour les retraites.
Le long,
Il n'arrête pas de tricher. Alors comment voulez-vous qu'un pouvoir qui ait pris la main dans le sac tout le temps, même si pour l'instant, il n'en a pas souffert lui personnellement, comment voulez-vous qu'il donne la confiance au pays et qu'il donne un minimum d'unité dans ce pays dans la recherche d'objectifs communs? C'est pas possible. Il n'a rien à dire sur les objectifs communs, puisque ses objectifs à lui, je vais en parler à propos d'une autre question, d'ailleurs c'est absolument effarant, ses objectifs à lui, c'est de faire avancer ses idées, d'aider M. Zelensky, de détruire la Russie, etc. Bon, objectif qui n'atteindra évidemment pas, hein, mais il délire et il fait délirer, enfin non, il même fait pas délirer 66 millions de Français, il mène dans une espèce d'impasse politique le pays. Et quand on est dans une impasse politique, effectivement, des situations comme il s'en est vécu ces derniers jours et comme il peut s'en revivre dans les jours qui viennent, peut émerger n'importe quand. Et à propos de n'importe, là c'était à propos d'un assassinat, hein, d'un homicide volontaire apparemment. Bon, ça la justice jugera. Moi je m'en tiens au propos. Un des avocats de la famille de Naël a dit, je rappelle que dans la Constitution de la France, il y a la présomption d'innocence, les magistrats font leur boulot. Hein. Mais moi voilà pourquoi je vais plaider qu'il y a eu effectivement homicide volontaire. Après ils disent, la justice travaille. Et moi en tant qu'avocat, je l'aide à travailler. Bien. Voilà pour l'introduction qui, je pense, n'était pas inutile de faire, hein, parce qu'on est devant ce vide politique. On a passé tout le premier semestre de 2023, autour de cette question des retraites et tout, à parler de la perte de légitimité et de la perte de foi, de confiance plutôt, du peuple français dans sa représentation politique. On y est encore. C'est la même chose. Et ce n'est pas les excès de langage, les propos de Pierre-Paul ou Jacques et tout qui changeront quelque chose. Hein. La crise politique française, elle est profonde. Elle est gérée par un monsieur qui ne pense qu'à sa petite personne et à ses rêves de grandeur. Hein. Et donc, c'est très, très dangereux. Ça le reste. Alors là, c'est Naël qui a payé le prix. D'autres payeront peut-être le prix. Il faudrait éviter que ça se renouvelle. Bien.
De toute façon, ça a toujours existé. Moi, quand j'ai fait mon service militaire en 62, je me rappelle le ratonnade dans la police. On vous fait descendre dans la cave et puis voilà. On vous donne des coups où il n'y a pas des traces. Mais c'est des coups qui... Voilà, exactement. Là, ça a toujours existé. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'évolution.
Ben, que la France coloniale n'est pas morte.
Elle n'est pas morte, exactement.
La France coloniale n'est pas morte.
C'est vrai.
Et c'est ça. Alors, tu m'introduis, tu sais, je ne l'avais pas signé, mais tu m'introduis au sujet que je voulais développer et qui va beaucoup surprendre les auditeurs. J'y ai pensé parce qu'il va y avoir prochainement des élections présidentielles à Madagascar. Donc, le président sortant va se représenter, mais il aura un concurrent qui aura des chances contre lui. Et le président sortant, entre le moment où il a été élu président et maintenant, il a obtenu la double nationalité française. Ce qui, effectivement, amène à un cas assez rare, c'est-à-dire que s'il est élu, on aura un monsieur qui sera chef d'un État indépendant, souverain, et qui sera en même temps citoyen français. Quel rapport peut-il entretenir avec la France ? Un rapport bizarre, compliqué. Et même, est-ce que ce n'est pas un cas d'invalidité de son élection ? Vous êtes citoyen d'un autre pays, vous êtes élu président d'un autre. C'est un peu... Alors, ça serait, je ne sais pas, il aurait la double nationalité avec l'Uruguay, ça ne poserait pas problème. Mais la double nationalité avec la France, ex-puissance coloniale, ça peut poser problème. Ça peut poser d'autant plus problème, et c'est là que je voulais en venir, avec la question des îles éparses. Alors, je vais vous faire découvrir un sujet qui est peu connu, sauf des diplomates. Il se situe, donc, vous voyez, la grande île de Madagascar, à l'est du continent africain, un bras de mer très, très large entre l'Afrique donc, et Madagascar, qu'on appelle le canal du Mozambique, hein, puisque le Mozambique, c'est le pays africain qui est de l'autre côté de ce canal. Hein, mais c'est un bras de mer, c'est très, très large. Hein. Ce n'est pas un canal du tout, le mot est trompeur. Et il y a le long de ce canal, du nord au sud, d'ailleurs tout le long, une série d'îles non habitées qu'on appelle les îles éparses. Et il y en a une de plus qu'on appelle l'île Tromelin qui est de l'autre côté, alors carrément dans l'océan Indien, qui est à peu près aussi, qui est aussi inhabitée que les îles éparses. Bon, voilà ce qui est. Alors aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, depuis l'indépendance de Madagascar, le statut de ces îles éparses fait débat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, retenez, écoutez bien parce que vous allez comprendre sur un cas qui apparemment n'a pas d'incidence, hein, les îles Éparses, qu'est-ce qu'on peut en faire, j'y reviendrai. Mais ce qui s'est passé au moment de la négociation de l'indépendance, donc en 1960, au moment où toutes les colonies africaines de la France, à l'exception de l'Algérie, qui continuait sa lutte de libération nationale, c'est qu'il y a eu un accord qui a été signé, et après la signature, enfin après la négociation plus exactement, les Français ont rajouté une disposition dont les Malgaches n'ont jamais rien su avant de la découvrir. C'était trop tard, que les îles Éparses étaient françaises. Voilà. Alors ça, ça s'appelle... Hein,
c'est la surprise.
Ouais, c'est une mauvaise surprise, c'est une malhonnêteté, c'est une manipulation typiquement coloniale. Alors le raisonnement des diplomates français et des ceux qui menaient la négociation, c'était simple. De toute façon, c'est des petits îlots, hein, quelques kilomètres carrés, il n'y a personne qui habite dessus, il n'y aura pas de cri. Il n'y aura pas de cri. Bon. Alors, il n'y a pas eu de cri à ce moment-là, effectivement.
C'est peut-être stratégique, non ?
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là du monde, hein ? Alors, effectivement, il y a un premier aspect général. Pourquoi la France fait ça ? Parce que la France poursuit un objectif néocolonial manifeste, qui est de dire, j'ai le premier ou le deuxième, rentrons pas dans le débat à quelques kilomètres près, empire maritime du monde, à égalité ou un peu en plus que les États-Unis. Un empire maritime, ça veut dire les zones maritimes et océaniques que je contrôle à partir de soit d'un grand morceau de terre autour de l'hexagone français, soit autour d'un morceau de terre moyen, genre la Réunion, soit autour d'un îlot qui fait un kilomètre de long sur deux kilomètres de large. Parce que ça aussi, ça donne droit à une zone économique exclusive, à des eaux territoriales et tout. Et ça permet à la France d'être le premier État maritime du monde. Ce qui ne veut rien dire, en fait, si ce n'est il est chez lui. Il considère qu'il est chez lui. Alors jusqu'à présent, ces îles Éparses, au début, on n'en a pas beaucoup parlé. Et puis ça a commencé à devenir intéressant, justement, quand la France a commencé à dire « Mais moi, je veux avoir ce grand empire maritime. » C'est ce qui a justifié, c'est ce qui explique le rattachement de Mayotte, là aussi, oui, d'une façon anormale, Mayotte arrachée aux Comores, c'est que ça aussi a grandi l'espace maritime français. Avec les problèmes qu'on a déjà évoqués, sur lesquels je ne reviens pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ces îles Éparses ? Ben, jusqu'à présent, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis, on s'est aperçu, et on n'est pas les seuls à s'en être aperçu, c'est-à-dire le monde entier s'est aperçu, qu'effectivement, dans la mer, il y a des richesses. Alors, il y a des richesses hyper classiques, c'est les richesses qu'on appelle halieutiques, c'est la pêche. Bon. Alors, ce n'est pas tellement le cas pour ces îles-là, qui sont alors administrativement rattachées aux terres australes et antarctiques françaises. Alors, encore une autre bizarrerie. Donc, vous avez 5 ou 6 îlots qui sont sous climat tropical, hein, dans le canal du Molambique, qui sont rattachés à un territoire français des terres qu'on appelle arctiques, antarctiques et australes, avec la Terre Adélie, les Kerguelen et tout, hein, qui sont donc en climat antarctique, gelé toute l'année, etc. Bon, on les a mis là parce qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose à gérer, puisque lui, il n'y a aucun habitant. Alors, il n'y a aucun habitant, aucun problème. Ben non, ce n'est pas vrai, parce que maintenant, on s'aperçoit qu'outre la pêche, et ça, tous les pays du monde sont en train de le découvrir, il y a des richesses sous l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir sous l'eau ? Alors, la réponse classique, c'est il y a du pétrole, si on en cherche, on peut en trouver. Et probablement, il y en aurait, mais il n'y a pas encore eu de forage. Et puis, il y a ce qu'on appelle les ressources en minerais, les nodules, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'au fond des océans, il y a des petites billes, qu'on appelle des nodules, qui sont pratiquement du minerai ou de fer ou de zinc ou de cuivre à l'état pur. Et de beaux esprits, j'allais dire, appâtés par le gain, se sont dit, si on va les ramasser, on met du fer ou du cuivre ou du zinc sur le marché mondial dans des conditions extrêmement intéressantes, avec des concentrations plus importantes que ce qu'on peut trouver sur la terre ferme. D'où l'idée de l'exploitation de ces nodules polymétalliques. Alors, ce qu'ils n'ont pas regardé, c'est qu'on risquait, si on allait... Imaginez, vous êtes à moins 4000 ou moins 5000 sous la surface de l'océan, et puis vous allez mettre en place une espèce d'énorme bulldozer qui va agiter tout ça, etc. Alors, je ne sais pas ce qu'il arrivera à la faune, à la flore, etc. L'océan sera pollué peut-être pour des dizaines ou des centaines d'années. Bon, ça, ils n'y ont pas trop réfléchi. Alors, mais enfin, il y a un appât du gain immédiat pour ces rochers, ces trésors sous-marins, qui devient fort. Et ça, la France n'y échappe pas, et Macron lui-même n'y échappe pas, pas plus que les autres. Bon. Alors ça, c'est la réalité qu'il y a derrière. C'est-à-dire, il y a une puissance française là-dedans, et puis des capacités à exploiter des richesses dans la zone qui nous appartient. Je mets ce « nous » parce qu'au fond, cette législation sur le droit de la mer, elle est bizarre. Puisqu'au fond, pourquoi à partir de 200 km, ça ne serait plus à nous, et à partir de 100 km, à partir de la Réunion, ça serait à nous. Bon. Mais tous les pays ont accepté ça, sauf les États-Unis, qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas signé la Convention pour le droit à la mer. Où on en est de ce dossier? Alors, les gouvernements malgaches successifs ont commencé à dire « Nous, on réclame, ça fait partie ». Et donc, ils ont demandé à l'Assemblée générale de l'ONU de voter. Et l'Assemblée générale de l'ONU, très correctement, a dit « C'est manifestement un territoire malgache ». Il n'y a pas de doute que la République française a volé, d'une façon plus discutable que je vous ai raconté tout à l'heure. Bon. Donc, il y a un... Ben alors, vous savez que les votes, les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes. Donc depuis que ce vote a eu lieu, je n'ai pas la date sous les yeux, mais ça fait un certain temps. Je crois que c'est en 1979. Oui, voilà, j'ai la date. Bon, la France, c'est Jean Liman assis sur le vote de l'Assemblée générale. La résolution, ils ne veulent pas le savoir. Bon. Et alors, quand la température monte, qu'il y a un gouvernement qui arrive à Madagascar et qui dit qu'il faudrait quand même régler cette question-là, on reprend des discussions. Mais on reprend des discussions, puis pour l'instant, n'ont jamais abouti, puisque de toute façon, la France ne veut pas aboutir. Alors, il manquait à la période macronienne de mettre son grain de sel là-dessus. Alors, il l'a fait de deux façons. Et vous allez voir que c'est tout à fait dans le style du personnage. Il l'a fait parce que, alors je sais, parce qu'au cours du premier mandat, un beau matin, M. Emmanuel Macron a débarqué sur un de ces îlots désertiques sans population, avec les caméras de télévision, etc., en bras de chemise, à l'aise comme tout, et il a crié « Ici, c'est la France !» Voilà, bravo, bravo. Donc, façon de provoquer les Malgaches, je vous tire la langue, hein, je suis chez moi.
Et tout le pays d'Afrique.
Voilà, et il risquait pas d'être contredit, puisqu'il y a zéro habitant, tranquille. Bon, et il risquait pas de contre-manifestation. Alors voilà comment on est glorieux. J'ai conquis les îles éparses. Bravo, général. Bravo, capitaine Emmanuel. Vous êtes très, très fort. Alors bien sûr, il n'est pas arrivé tout seul. Et en cherchant, alors j'ai mis un certain temps à trouver. Je me dis, quand même, il est venu. Donc ils savent bien un peu où ils mettaient les pieds. On connaît la géographie de ces îlots, etc. Alors c'est très, très discret. C'est très, très discret, mais on apprend quand même qu'il n'y a pas d'habitants. Mais il y a quand même un peu la Légion étrangère. Il y a un peu la Légion étrangère. En bref, on va vous dire, oui, mais il y a aussi une base d'observation météo. Alors ça présente bien, c'est vendable, la base d'observation météo. Mais il y a la Légion étrangère. Et puis, on voit bien avec les photos aériennes, quand on cherche un peu, qu'il y a quand même une piste, alors qu'il doit être une piste un peu sommaire, piste en terre, mais enfin, où un petit avion ou un hélicoptère peut se poser. Donc, ce n'est pas complètement indépendant. Et puis, on sait que le bateau français qui gère les terres antarctiques et australes, le Marion Dufresne, qui est bien connu, une fois l'an, passe, regardez comment ça va. Alors je pense que ce n'est pas eux qui sont chargés de amener la Légion étrangère. C'est-à-dire que l'absence, le côté désertique, l'absence de population, ça risque quand même, enfin ça mérite d'être relativisé. Il n'y a pas de population, si ce n'est une population de la Légion étrangère, précisément, qui est là, avec un certain nombre de moyens. Alors c'est pas des milliers d'hommes, mais sur chacun de ces petits îlots, il y a une présence militaire française. Voilà. Et donc la République malgache sait que c'est ça qu'elle veut plus qu'il existe. Bon. Alors, dernier habillage, et là, on est en plein macronisme triomphant, si j'ose dire.
Mais je sais pas.
Alors, oui, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour justifier que la République française continue à rester là? Eh bien, on a une découverte qui est purement... Non, mieux que ça, non. Alors, c'est évident, les recherches sous-marines, le pétrole, éventuellement, les nodules, etc. C'est bon, la pêche, tout ce qu'on veut. Non, c'est un trésor de la biodiversité. Donc, il faut protéger la biodiversité. Et donc ça, c'est le dernier message vendu par la Macronie. Nous protégeons, moi, la France, je protège la biodiversité dans les îles éparses. Alors la question que je me pose, est-ce que les Malgaches et les gens qui pourraient travailler avec eux sont des imbéciles? Ils ne sauraient pas protéger la biodiversité eux aussi? Ils saccageraient tout? Ils implanteraient des colonies sur ces petits morceaux de terre au milieu des eaux? Non, peut-être pas. Non, mais par définition, comme nous, peuples coloniaux, enfin pas moi, mais comme les peuples coloniaux sont supérieurs aux peuples colonisés, la France saura préserver l'intégrité biologique et la biodiversité des îles éparses, alors que les autres, c'est moins que rien, ne sauraient pas le faire. C'est ça le dernier argument. Ah oui, l'évolution donc de la politique et de la propagande macronienne, elle est très très liée à un discours général sur la préservation de la biodiversité, ci et ça, etc. Alors qu'en fait, elle cache des intérêts les plus capitalistes qui soient et les plus impérialistes et colonialistes qui soient. Je veux garder la France, c'est ici. Je suis en France, dit-il, les pieds sur le sable de cet îlot non peuplé. Et alors sur les images, on ne voyait pas les légionnaires qui devaient être cachés dans les fourrés, j'imagine. Mais c'est, voilà, une des comédies. Alors c'est une toute petite comédie, mais ces petites comédies qu'on connaît assez peu révèlent tout à fait la façon dont le personnage et les gens qui l'entourent vivent leurs responsabilités. C'est-à-dire, je mens, je monte des coups, je fabrique ça, je montre que c'est pour la biodiversité, machin, chose et tout. En fait, je veux être un colon et je veux être chez moi partout. Bon.
C'est voilà. Comme les îles au Yémen.
Oui, pareil. C'est le même pareil, truc. Oui, pareil, pareil.
Ils ont voulu mettre des bases, même israéliennes, Israël, je crois.
Tout à fait, au large du Yémen.
Au large du Yémen, ouais.
Tout à fait. Pareil. Voilà. Alors voilà le petit chapitre sur les îles éparses qui méritait d'être rappelé, ouais. Parce que ça va être un des sujets qui sera abordé pendant la campagne présidentielle à Madagascar qui s'ouvre. Donc je vous en reparlerai, mais je vous ai posé le décor. Hein. Donc la France ne veut rien lâcher. Elle a triché depuis le début. Elle s'assoit sur l'ONU comme d'habitude. Elle n'est pas le seul à le faire. Hein. Et donc elle ne veut pas changer de sa posture coloniale qui lui colle. Enfin, j'allais pas dire que c'est une expression tellement classique. C'est l'ADN de la bourgeoisie française, la colonisation et le colonialisme.
On n'arrive pas à s'en débarrasser.
On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et c'est aussi vécu comme ça, dans cette immigration dans les quartiers, c'est aussi vécu comme ça, en disant ce comportement du gouvernement, l'absence d'équipement, enfin tout ce qui se passe dans des quartiers dits défavorisés, c'est aussi, ils peuvent le ressentir à juste titre comme une expression de la mentalité coloniale. Et ils l'ont fait. Alors je rappelle par exemple que quand c'était au courant de l'année dernière, la France a décidé d'accueillir de différentes façons beaucoup de réfugiés ukrainiens avec des facilités qui n'étaient pas données à beaucoup d'autres ressortissants d'autres pays. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais comment ça se fait qu'eux, on les laisse venir si facilement ?» Et réponse « Eux, c'est des Blancs hein ». Voilà. Bon. Alors là, voilà, ça, le racisme...
Alors que les autres, on les laisse mourir dans la mer.
Voilà. Alors j'ajoute à ça, on en reparlera parce que c'est un sujet très grave, que l'Union européenne vient d'arrêter une nouvelle politique migratoire qui va remplacer les accords de Dublin. Il faudra qu'on en reparle parce que ça mérite. C'est-à-dire que pratiquement, il y aura à la périphérie de toute l'Union européenne des camps d'internement où donc les réfugiés, enfin les candidats à l'intégration seront stockés jusqu'à ce qu'on statue sur leur demande. Ça prendra un certain temps. Et après quoi, ne rentreront que ceux qui auront eu l'accord pour rentrer. Donc il va y avoir, l'Union européenne va organiser des camps d'internement tout autour de sa frontière. L'objectif étant de dire le maximum de gens qui feront la demande seront repoussés. Donc ils n'auront même pas à pénétrer. Vous savez, dans le système Dublin, vous pouviez rentrer, le premier pays d'accueil, vous ouvrez les portes. Ça, c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire que l'Union européenne, alors elle a tenté ça avec la Libye, par exemple, et tout. Ils sont en train de le tenter avec la Tunisie, alors je le signale, parce que, monsieur Sanchez, nouveau président en exercice pour 6 mois de l'Union européenne, madame von der Leyen et je crois monsieur Borrell sont allés à Tunis pour dire on va vous donner beaucoup d'argent et les migrants, vous allez les stocker chez vous. Ils ne prendront pas le bateau, vous allez les enfermer en Tunisie. Ouais. Et voilà un chèque.
Il n'a pas accepté. Hein.
Non, je sais, non, mais ils ont fait la démarche, ils ont osé.
Oui.
Ils ont osé. Bon. Donc, voilà un sujet. Roselyne, tu veux dire un mot ?
Oui, donc ça veut dire que tous ceux qui vont quand même arriver en France, malgré tout, n'auront pas le droit de demander l'asile.
Exactement.
D'accord.
Ouais. Exactement, mais c'est ça. C'est voilà. Oui. Ça détruit le concept de droit d'asile. Enfin, ça lui donne une taille beaucoup, beaucoup plus réduite. Hein. C'est tout à fait clair. Ouais. Il y aura quelques cas qui passeront, hein, mais le moins possible. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le travail de l'Union européenne. Alors, puisque j'en suis là, je voulais vous parler de M. Sanchez, donc M. Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, qui, après donc, ses incartades sur le Sahara, sur le Sahara occidental, est allé directement... Alors, je rappelle, il est depuis samedi 1er juillet président pour 6 mois de l'Union européenne. Le jour même, il était à Kiev. Le jour même.
Oui.
Le jour même, il était à Kiev. C'est-à-dire que c'était prévu, on l'a accueilli, et il est allé dire « L'Union européenne va continuer à vous soutenir, vous avez raison ». Il n'a pas dit « mort aux Russes », mais ça revenait à ça. Hein. Et donc, il va y avoir encore de l'argent. Quoi qu'il en coûte, il l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'argent pour les Ukrainiens. Ils manqueront peut-être dans les caisses d'un certain nombre d'États de l'Europe. Ça n'a pas d'importance, il ne veut pas le savoir. Voilà la nouvelle direction politique de l'Union européenne. Alors lui et Borrell, comme soi-disant ministre des Affaires étrangères, on a une équipe très, très dangereuse à la tête de l'Union européenne pour 6 mois. Voilà, monsieur Sanchez, ce que je voulais en dire. Et puis on en reparlera, parce que sur cette ligne-là, il risque de faire pas mal de dégâts. Voilà, il est allé à Kiev, bon, ouais, mais je dis le jour même, hein, il n'a pas attendu 24 heures, il s'est précipité à Kiev, où bien entendu Zelensky l'attendait, et les reporters, et les photos, etc., etc., et il a confirmé que l'Union européenne allait envoyer de l'argent, du matériel et tout. Alors du matériel, bon, on en a de moins en moins, c'est-à-dire que là, les stocks des armées européennes sont vidés maintenant, il va falloir les reconstituer, mais on sait que, de l'avis de certains militaires, il n'y a plus grand-chose dans les réserves de munitions sur le territoire de l'Europe, mais tout est en Ukraine. Voilà. Après, où ça va-t-il? On ne sait pas, parce que manifestement, il y a de la perte en route. Hein, et donc, une partie de l'armement qui part pour l'Ukraine n'y arrive pas. Ou bien y arrive et puis repart vers d'autres destinations qu'on souhaite la plus éloignée possible de chez nous. Mais ce n'est pas garanti. Ensuite, ce que je voulais souligner... Ah oui, je vais faire plaisir à Roselyne. Monsieur Macky Sall a décidé qu'il ne se représenterait pas. Bon, alors il l'a dit, c'est pour l'année prochaine. Bon, acceptons-en l'augure. Alors je rappelle quand même que comment on fait pour manipuler une constitution? Alors, il y avait dans la constitution du Sénégal un président élu pour 2 septennats. Ouais. 2 × 7, 14. Au cours d'un de ces septennats, monsieur Macky Sall a fait changer la constitution où il y a désormais plus que 2 quinquennats et pas un de plus. Mais il dit, mais à la nouvelle constitution, on repart tout de zéro. C'est-à-dire, je calcule sur mes quinquennats commencés. Donc, j'ai le droit. Il fait comme ça. Alors, il fait changer la constitution, il se redonne un point zéro. Et il dit, à partir de maintenant, on compte 2 mandats de 5 ans. Comme s'il n'avait rien fait avant. Hein. Bon, alors, c'est une manipulation qu'il n'a pas inventée tout seul, puisque M. Ouattara a fait exactement la même chose en Côte d'Ivoire. Alors, je pense que ces messieurs-là ne sont pas idiots, mais en plus sont bien conseillés. Ça veut dire qu'à Paris, on leur dit, mais faites comme ça, c'est tellement facile de prendre vos électeurs africains pour des imbéciles et de vous asseoir sur le droit. Hein. Bon, voilà. Donc, apparemment, il a commencé à comprendre, parce que l'opposition s'est manifestée et elle risquait d'être forte, il a commencé à comprendre. Puisqu'il dit donc, finalement, je ne me représenterai pas. Alors, acceptons-en l'augure, c'est encore loin, c'est l'année prochaine.
C'est au mois de février, hein. Voilà. C'est pas si loin que ça, février 2024.
Oui, février 2024.
Mais bon, rien ne dit qu'au dernier moment, il ne trouvera pas une raison de se représenter, comme l'a fait Ouattara.
Voilà, oui, il dira oui, l'ordre républicain est menacé, ou je ne sais quoi, oui, tout à fait. Non, là, il fait tomber la pression, c'est manifeste. Hein. Il est en tort juridiquement, mais ça, il s'en fiche. Hein. Mais ça mérite qu'on suive ça de près. Alors, c'était une semi-bonne nouvelle, hein, parce que ce genre de manipulation, on l'a déjà vécu à d'autres endroits. Et puisque j'en suis à parler de l'Afrique, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors ça, on en a très, très peu parlé. Vous savez qu'il y a eu une délégation de l'Union africaine qui s'est rendue successivement à Kiev et à Moscou pour essayer de trouver un terrain d'entente, des négociations, etc. Alors cette délégation était curieusement constituée, je vais m'arrêter un peu dessus, parce qu'elle était constituée de plusieurs pays, certains qui, au moment des votes à l'ONU par rapport à la guerre en Ukraine, avaient voté contre la Russie, je pense à l'Égypte en particulier, d'autres qui s'étaient abstenus et d'autres qui avaient, au contraire, soutenu la position russe. Donc l'Union africaine, voyant qu'elle n'avait pas une position unanime, avait fait un dosage subtil dans sa délégation. J'essaye de vous retrouver la liste des membres. Il y avait donc l'Égypte, l'Ouganda et le Congo, les trois pays qui n'avaient pas soutenu la Russie à l'ONU. Et puis il y avait les autres, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait les Comores, l'archipel des Comores, pas Mayotte, les autres, le Sénégal et la Zambie. Alors l'Afrique du Sud était dans une position un peu particulière, puisque vous savez que l'Afrique du Sud subit des pressions outrancières de la part de l'Occident pour ne pas accueillir Vladimir Poutine au sommet des BRICS qui se tiendra le mois prochain en Afrique du Sud. Pour l'instant, la Russie, d'ailleurs, n'a rien dit sur cette présence, mais il faut savoir que les menaces proférées par les chancelleries occidentales contre l'Afrique du Sud, si jamais elles laissaient venir Vladimir Poutine, inculpé devant la CPI, enfin, vous connaissez le cinéma actuel, sont fortes. Alors l'Afrique du Sud est un peu embarrassée, mais elle continue à tenir assez bien le coup face à ces pressions qui sont considérables. Il faut savoir qu'il y a des intérêts économiques occidentaux très importants en Afrique du Sud. Il ne faut jamais l'oublier. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Kiev ? Ben, il ne s'est pas passé grand-chose. Et ce qui s'est passé avant d'arriver à Kiev, c'est que les présidents des trois pays qui étaient pro-Kiev, j'allais dire pro-Ukraine et anti-russe, ne sont pas venus. Je pense au président égyptien, en particulier, qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères, comme ça il ne s'est pas bouillé. Même chose pour l'Ouganda et même chose pour le Congo. Et puis les autres, on fait un petit passage, on leur a fait dire un peu ce qu'on voulait. Enfin, ça ne pouvait pas aller bien loin, puisqu'ils n'étaient pas très unis entre eux, et qu'ils n'allaient pas là pour faire des chèques, pour faire des chèques à Zelensky et à ses nazis. Ils ont quand même un peu plaidé la question du grain et des exportations de produits alimentaires pour l'Afrique. C'était normal qu'ils le fissent. Mais ce n'est pas allé beaucoup plus loin. Et donc, accueil très mitigé face à une délégation elle-même un peu embarrassée parce qu'elle n'avait pas une position commune très ferme. Et elle n'était pas composée que de chefs d'État, loin s'en faut. Elle était dirigée par le président des Comores en tant que tel, qui est président en exercice de l'Union africaine. Et puis ils sont allés le lendemain à Moscou, où là ils ont été très très bien reçus. Et on leur a expliqué plusieurs choses, y compris ce que c'était que les exportations de grains et de produits alimentaires de l'Ukraine et de la Russie, et en disant que la Russie commençait à en avoir un peu assez de cet accord sur les exportations, puisqu'elle, elle pouvait exporter, elle est en capacité. Aujourd'hui, la Russie est le premier exportateur de grains de blé mondial, c'est-à-dire qu'elle peut envoyer, mais la Russie a constaté que dans l'utilisation faite par l'Ukraine et indirectement la Turquie, qui surveille des exportations de produits alimentaires d'origine ukrainienne, la grosse majorité, la très très grosse majorité, je crois que c'est que 5% qui allait dans les pays d'Afrique, les pays qui peuvent avoir faim.
Ouais, et que,
voilà, tout le reste allait dans les pays de l'Union européenne. Ouais. Donc, soi-disant, la lutte contre la faim dans le monde, c'était pas du tout ce qui se passait. Donc ça, la Russie l'a rappelé, elle l'avait déjà écrit. Et ce qu'a fait Vladimir Poutine, et ça c'est très intéressant de le noter, parce que ça a peu été repris, on se demande pourquoi, c'est qu'il a remis à tous les membres de la délégation le texte du protocole d'accord qui avait été signé à Istanbul entre le gouvernement de Zelensky et la Russie quelques jours après le début de l'opération militaire spéciale, qui confirmait effectivement qu'il y avait un armistice possible avec des enjeux politiques clairs, la neutralité, enfin, les provinces donc du Donbass intégrées au territoire russe puisque la population avait voté, et puis le reste étant un pays neutre, restant garantissant sa neutralité. Bon. Ça, donc, M. Poutine a dit, mais moi, je ne vous raconte rien. Voilà le texte de l'accord et voilà le texte qui a été refusé parce que M. Boris Johnson est venu à Kiev et a donné l'ordre à M. Zelensky de ne pas signer. C'est tout. C'est comme ça que ça s'est passé. M. Johnson a été celui qui a exprimé que l'Occident devait continuer la guerre jusqu'à ce que mort de Russie s'en suive, puisque c'est tout à fait clair après ça.
Ou mort de l'Europe.
Hein ?
Ou mort de l'Europe.
Voilà, voilà. Alors ça, c'était la position de M. Boris Johnson. C'était bon, c'était quand même bon de la rappeler. Alors j'en suis ça, voilà. Donc très important. Et puis cette attitude donc positive et intelligente de la Russie aura des fruits, puisque le mois prochain, il y aura un sommet Russie-Afrique qui va se tenir, et donc on pourra parler plus sérieusement. Là, la délégation est restée une grosse journée ou deux jours, pas plus, mais enfin, elle a été traitée très très correctement, et on lui a expliqué le jeu qui était en train de se passer. Donc je pense que les ministres d'Égypte, de l'Ouganda et du Congo qui étaient là ont dû dire, effectivement, on ne nous avait pas tout expliqué sur la position de la Russie et sur la poursuite de la guerre, et qui avait décidé de poursuivre la guerre.
L'Égypte, je me doute, ils le savaient.
Oui, non, mais ils font les ânes, à mon avis. À mon avis, ils font les ânes. Alors, parce que l'Égypte, on pourrait beaucoup, beaucoup parler là-dessus, parce que l'Égypte est un, enfin, mange un peu à tous les râteliers, pour faire simple, est aux prises avec des problèmes compliqués de surpopulation, de problèmes d'eau, de problèmes d'agriculture, et n'a pas...
Parce que la Russie a beaucoup fait en Égypte.
Tout à fait.
Surtout le barrage d'Assouan.
Bien sûr. Non, mais ça, en fait, depuis Moubarak, ils sont dans une situation politique très, très faiblarde. Très faiblarde. On pourra en reparler. Puisque j'en suis à parler d'économie générale, un mot quand même qui mérite d'être dit. Il y a eu dans la semaine écoulée deux rapports intéressants sur la situation économique mondiale, un émanant de la Banque des règlements internationaux. Alors, vous ne savez pas ce que c'est que la Banque des règlements internationaux. C'est une banque dont le siège est à Bâle, en Suisse, et qui est la banque centrale des banques centrales. Ouais, ça, c'est un téléphone qui sonne. Bon, ça va passer. Et donc, la Banque des règlements internationaux, et alors on en parle beaucoup moins parce que c'est la banque centrale des banques centrales, donc on ne réunit à Bâle que les gouverneurs des grandes banques centrales, et des petites aussi, mais surtout des grandes. Ça. Donc c'est des réunions très, 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 pas très secrètes, parce qu'on connaît la programmation, les dates, etc., mais il n'en sort pas grand-chose d'officiel. Mais quand vous faites rencontrer le président de la Réserve fédérale américaine, le président de la Banque centrale d'Angleterre, la présidente de la BCE, la présidente de la Banque centrale du Japon et quelques autres du même acabit, on parle d'affaires sérieuses, y compris en temps de guerre. La Banque des règlements internationaux n'a jamais cessé de fonctionner pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on pouvait discuter argent entre le représentant d'Hitler et le représentant de Roosevelt pendant la guerre, et le représentant de Churchill. Parce que quand il y avait de l'argent, quelqu'un en devait aux autres, ou un en empruntait aux autres, il fallait bien que ça se décide au plus haut niveau, et dans le grand secret de l'institution baloise. Bon. Tout ça pour dire en quelques mots qui elle est. Et pour dire qu'elle a publié un rapport en disant que la situation internationale est préoccupante, économique. Et elle le sait d'autant plus que la situation internationale du point de vue économique et surtout monétaire, puisque c'est une banque, elle est portée par le fait que le dollar est de moins en moins populaire. Et ça, c'est un vrai, vrai problème.
Tant mieux.
Et donc, le dollar, on le sait, dégagé sur plus grand-chose. C'est-à-dire, le dollar fonctionne parce que la Réserve fédérale émet des bons du Trésor que les bons esprits ou les amis ou les faux amis auxquels ils décident de souscrire. Mais en fait, il n'y a pas de garantie sur la réalité de la richesse de la Banque centrale de la Réserve fédérale. Bon. Le deuxième aspect est l'aspect de la lutte contre l'inflation. Alors ces braves gens se préoccupent en disant c'est bien joli de dire qu'on monte les taux d'intérêt. Vous avez tous compris que les taux d'intérêt ont beaucoup monté, d'abord aux États-Unis, puis la Banque centrale européenne a suivi, tout le monde a suivi. Mais effectivement, quand vous montez les taux d'intérêt des banques centrales, les banques elles-mêmes suivent la hausse de ces taux d'intérêt et tous les crédits deviennent chers. Donc vous mettez très vite en cause les programmes d'accession à la propriété, les programmes de financement d'infrastructures, tout vient. Donc vous engendrez nécessairement un ralentissement de l'activité économique. Et donc la Banque des règlements internationaux se dit ralentir l'activité économique, faire baisser l'inflation, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ça arrête toute la mécanique. C'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien, que les investisseurs soient frileux et qu'il n'y ait presque plus d'investissement, parce que les investissements, c'est connu d'aujourd'hui, sont la force productrice de demain, etc., etc. Cette inquiétude, elle est reprise pratiquement mot pour mot par le Fonds monétaire international qui dit « c'est inquiétant ». C'est-à-dire la hausse du crédit, le coût des prêts partout dans le monde fait que l'activité va se ralentir. Alors ils ajoutent à ça, enfin ils n'ajoutent pas, mais c'est dans leur subconscient derrière, c'est... Il n'y a que la Chine qui arrive à continuer à travailler, et ça les embarrasse beaucoup, hein, puisqu'il dit, si nous on ralentit et qu'on a des taux de croissance, vous allez voir, parce qu'on s'achemine dans la zone euro en particulier, peut-être un peu plus aux États-Unis, mais vers des taux de croissance de 2023 qui vont tourner entre 1 et 2%. Si la Chine est à même 5-6, qui est moins que d'habitude, moins qu'à d'autres périodes, elle sera très très loin en avant, c'est-à-dire elle confortera sa position de première économie mondiale sans problème. Donc voilà les inquiétudes de ces messieurs de la finance sur lesquelles, sans m'étendre trop, je voulais un petit peu m'arrêter. Et puis, je regarde un petit peu le temps qui passe. Je regarde le temps qui passe pour vous parler du Venezuela. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous savez qu'on est rentré quasiment en campagne électorale aux États-Unis. avec M. Trump, qui manifestement est en train d'occuper le terrain avec la vigueur dont il est capable et coutumier, hein, et donc qui fait comme si les républicains avaient décidé que c'était lui le candidat. Hein, et effectivement, pour l'instant, on ne voit pas trop qui pourrait l'en empêcher. Et il fait campagne contre le Venezuela, entre autres, pas que ça, bien entendu, contre le Venezuela. Et Biden est un peu sur la même position. Alors pourquoi le Venezuela ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut regarder la scène pétrolière internationale. C'est là que ça se joue. Le Venezuela a les plus grosses réserves pétrolières mondiales. Bon. Alors, c'est un pétrole un peu particulier. C'est un pétrole dit lourd qui ressemble plus à du goudron qu'à de l'essence. Mais en volume, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est contesté par personne. Bon. Or, il se trouve que les autres puissances pétrolières, qui jusqu'à présent étaient dans la main des États-Unis, je simplifie, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aux Émirats Arabes Unis, pas l'Iran, mais l'Iran avait de la difficulté à commercialiser son pétrole à cause de l'embargo. Et donc, il se trouve que l'appétit des États-Unis pour le pétrole vénézuélien devient extraordinairement fort. C'est le seul qu'on risque d'avoir, qu'on a la possibilité de prendre, disons, de maîtriser. Alors, on est tout prêt, il y a des relations depuis longtemps, on les connaît, et puis là, qui est-ce qui viendra nous en empêcher ? Donc, voilà l'objectif. Parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis continuent à produire du pétrole et du gaz, mais c'est du pétrole et du gaz de schiste principalement, et que assez vite, on voit venir l'épuisement, qui revient cher, et on voit venir l'épuisement de cette ressource. Donc effectivement, pour un mandat présidentiel, pour un président qui regarde à 4 ans ou à 8 ans son deuxième mandat éventuel, il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est main basse sur le Venezuela. C'est clair. Puisque l'Iran, on ne peut pas. L'Arabie Saoudite, ça y est, ils sont fâchés. Enfin, ils sont fâchés, on n'a plus la maîtrise.
Ils essayent de prendre leur indépendance.
Oui, tout à fait. L'Irak, c'est pareil. On n'est pas sûr du tout. Et donc, il nous reste... Voilà. Alors, comment faire pour faire tomber, parce qu'il faut faire tomber le régime vénézuélien. Alors apparemment, on en reparlera probablement dans les semaines qui viennent, il y a en préparation un nouveau Guaido. On va fabriquer une... Alors Guaido est invendable, le produit est périmé, il est pourri, on l'a jeté aux ordures. Ouais. Bon, et donc, ils sont en train de réfléchir à nous trouver, à fabriquer un nouveau clown, un Zelensky des tropiques. Voilà, c'est ça qui est à la recherche. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça... Mais c'est clair que c'est dans les annonces et des républicains et des démocrates. C'est-à-dire que sur ces questions-là, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre la position des démocrates et celle des républicains. C'est on veut le Venezuela et son pétrole. Et tout. Et pour l'instant, Maduro est là au milieu avec son gouvernement. Il nous dérange. Je voulais insister là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne dans les mois qui viennent. Facteur Venezuela. Et je voulais finir par ça parce que ça sera drôle.
Après, je poserai une
question.
Je voulais savoir, c'est à part, c'est en dehors de ça. D'accord. C'était Wagner.
Wagner, si, il faut dire, bah, oui, quand même, oui, c'est le bilan Wagner. Ouais. Alors, le bilan Wagner, c'est que, donc, Wagner et les hommes de Wagner qui ont fait l'opération avec lui, c'est-à-dire une fraction de l'effectif du groupe militaire privé. Une fraction certainement minoritaire, puisqu'on parle de 7-8 000 hommes sur 10 000 ou plus. Bon.
Ceux-là, c'est 7 000
lui. Voilà, ceux qui ont fait l'opération avec lui, à Rostov, et voilà.
Voilà, d'accord. Voilà.
Ceux-là, alors, sont déjà... Alors, il est clair que Prigogine, il est déjà arrivé à Minsk, il est au Biélorusse, et ses hommes suivent. Hein. Et là, ils ont intérêt à ne pas bouger, parce qu'ils n'ont pas été embauchés par l'armée du Biélorusse.
Est-ce que le reste a été... prise par l'armée russe.
Alors, ce qui se passe, c'est que depuis le 1er juillet, puis c'était la date officielle qui était prévue à l'avance, ce qui explique d'ailleurs la tentative de soi-disant coup d'État, c'était que le ministre de la Défense, donc M. Shoigu, avait dit que ça suffisait, la milice de Wagner, surtout après ses excès de langage, etc., que leur état de service sur le terrain était bon, mais que ce monsieur était indiscipliné, faisait des commentaires tout à fait déplacés sur l'armement, les munitions et tout, et qu'il n'avait plus sa place dans les alliés. Il fallait que tout ce beau monde rentre dans l'armée russe régulière. Bon, alors ce qui se passe, c'est que depuis le 1er juillet, tous les soldats de Wagner qui n'ont pas participé à la tentative de coup d'État, pour faire simple, sont intégrés à l'armée russe. Donc, voilà. Donc ils sont dans l'armée russe, sous contrat, c'est des contractuels, c'est pas des engagés, ils ont des contrats. Et l'image, bon, je l'ai revue vu, et j'étais content de cette l'image que j'utilisais la semaine dernière en disant que ce serait une espèce de légion étrangère dans l'armée russe, c'est exactement celle qui est reprise par beaucoup de commentateurs officiels. Bon, c'était bien ça. Donc c'est un corps particulier de gens sous contrat qui sont sous la direction d'officiers russes dans des armées russes, point à la ligne. Les autres, ils sont au Biélorussie. Oui, vas-y.
Qu'est-ce qui devient Pigovine?
Alors, Prigogine.
Voilà.
Prigogine, non, il est. Alors, il est arrivé, on a vu son avion atterrir à Minsk sur un aéroport militaire. Il est là. Et à mon avis, il lui a été dit que si jamais il était là, on le laisse tranquille, il vit sa vie tranquillement. On lui a fait fermer son agence de presse en Russie. Ah. Donc, il peut plus continuer à raconter qu'il est le meilleur guerrier du monde, etc. Il peut continuer. Alors, ça, c'est, j'insiste là-dessus parce que c'est intéressant par rapport à la prise. Il peut continuer en tant que tel. Tant que Wagner avoir des contrats avec des pays africains, ça, c'est pas impossible du tout. Mais la différence entre une armée privée qui travaille dans le sein de l'armée russe, dans une campagne que mène l'armée russe, donc qui est un supplétif de l'armée russe, et un contractuel qui est en République centrafricaine, qui est sur contrat avec le gouvernement, il ne va pas tenter un coup d'État contre le gouvernement de la République centrafricaine, ni avec contre la République du Niger,
monsieur Wagner. Mais à mon avis, il est dangereux.
Oui, non, je pense qu'il est dangereux. Mais enfin, ouais. Je pense que maintenant, ils seront peut-être instruits, mais de toute façon, ils sont en capacité de dire, monsieur, vous avez ce contrat, vous ne l'avez pas honoré, dehors, c'est tout. Et c'est pas lui, il ne pourra pas, avec sa petite troupe, dire, je renverse le gouvernement pour prendre le pouvoir à Bangui. Ça tient pas debout. Alors, ce qu'il pouvait faire avec la Russie, il ne peut pas le faire ailleurs. Donc, je pense qu'il va continuer petitement comme ça, jusqu'à peut-être qu'il y ait un concurrent qui soit mieux équipé que lui. Alors, sachant qu'il a effectivement, et ça a été reconnu par les soldats russes et par l'état-major, même qu'ils avaient des soldats de qualité, qui se sont bien battus, là où ils se sont battus. Et j'insiste sur un point qui est très très important, c'est la question du front. Le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine est un front qui se développe sur 1000 kilomètres. C'est-à-dire, prenez le tour de la France, vous allez de Dunkerque jusqu'à Menton, c'est ça le front. Bon. Alors imaginez, ce qu'a fait Wagner et ce qu'a mis en lumière M. Prigogine, c'est de dire, je me suis battu, imaginons qu'il se soit battu au niveau de Mulhouse. Et à Mulhouse, j'ai bien tenu le coup. Oui, d'accord, vous avez bien tenu le coup à Mulhouse, vous êtes bien battu. Mais à Dunkerque, vous n'y étiez pas. À Menton, vous n'y étiez pas non plus. Hein. À Briançon, vous n'y étiez pas non plus. Hein. Vous avez tenu 10 km sur un front de 1000 km. Vous l'avez tenu honorablement, ça ne fait pas de problème. Mais c'est tout. Ne vous faites pas plus gros que vous n'êtes. C'est ça. Et donc, de toute façon, ce que cet épisode a mis en lumière, c'est qu'une milice privée au milieu d'une armée en campagne, c'est dangereux. Surtout quand elle est dirigée par un personnage qui n'est pas reluisant, qui a fait de la prison, qui est très proche, enfin qui est très conscient de ses propres intérêts.
Cette histoire, c'est pas un coup d'argent, c'est pas.
Si, probablement, parce qu'il gagnait beaucoup. Il avait un contrat, on dit, d'un milliard de dollars par an, avec le ministère de la Défense. Donc, et il devait faire, enfin, vu le personnage, il devait faire un chantage sur le ministère, disant je me suis bien battu, augmenter les prix. Hein, c'est clair. Et il en prenait une partie pour lui.
Et il demandait des armes sophistiquées.
Oui, il voulait plus. Voilà, il devenait effectivement dangereux. Donc là, la leçon est claire. Dans une armée en campagne, ce qui est le cas de l'armée russe aujourd'hui, on ne laisse pas un élément comme ça, instable et trouble, continuer à faire les affaires. Donc là, maintenant, il est au Bélarus. Il pourra sortir du Bélarus. À condition de ne pas rentrer sur le territoire de la Russie, parce que là, j'ai essayé de comprendre ce que ça veut dire, la levée des poursuites. Bon, il n'y a plus de poursuites puisqu'il n'est plus en Russie. La Russie ne demandera pas à Loukachenko son extradition, mais si jamais il remet les pieds en Russie, à mon avis, il aura un procès. Bon, et donc ça, il a dû le comprendre et il ne le fera pas.
Donc il est tenu par le président biélorusse.
Bien sûr, tout à fait. Et le président, alors, ce qui est important, c'est que, à la limite, le président biélorusse peut dire il peut me rendre service et ça va servir, on va le voir dans les jours qui viennent. Vous savez que dans quelques jours, il y a le sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, juste à côté. Et effectivement, si le président biélorusse dit ben, « j'ai passé un contrat avec Wagner, si jamais ma frontière avec la Lituanie était menacée par l'OTAN », il est là. Alors les autres diront « oui, on a eu affaire à lui déjà quelque part vers Bakhmout, hein, oui ». Et puis le président Loukachenko, pour ajouter, vous savez qu'en plus, la Russie a déployé sur mon territoire des missiles L-300 avec des têtes nucléaires. Bon, donc avis aux amateurs. Avis aux amateurs, donc le sommet de l'OTAN, c'est je crois la semaine prochaine à Vilnius, juste à côté. Et s'ils ont l'idée de se dire, ah ben si on envahissait le Bélarus, ou si on commençait à tirer sur le Bélarus, ils vont y réfléchir à deux fois. Et puis alors du côté de Kiev, on va être être très, très inquiets, parce que si jamais l'armée du Bélarus se mettait à passer la frontière, imaginez que Zelensky fasse une bêtise, qui tire, par exemple, sur Minsk. Tout peut arriver avec lui. À ce moment-là, l'armée du Biélorus serait en capacité de dire « Moi, je viens me défendre et je viens chez vous. » Et donc, Kiev serait pris en tenaille entre l'armée russe à l'est et l'armée biélorusse au nord, ce qui rendrait la situation encore plus compliquée. Bon, on n'en est pas tout à fait là, mais ça reste des possibilités qu'il faut que nous connaissions. Et enfin, dernière chose, non, dernière minute, une minute.
Une minute.
Je vous lis le titre. Un diplomate américain désigne ce pays comme la plus grande menace pour la sécurité mondiale. Alors ça, c'est M. Richard Haass, qui est le président du Council of Foreign Relations, qui est le plus grand think tank en matière de politique étrangère aux États-Unis, qui dit, écoutez bien, « Il ne fait aucun doute que les États-Unis représentent le danger le plus sérieux pour la sécurité mondiale. De plus, la menace intérieure a désormais dépassé la menace extérieure pour la première fois de son histoire. » Bon. Donc voilà un monsieur qui parle de très haut, qui est respecté dans son pays et qui dit très exactement quelle est la situation. Alors, je suis content d'avoir à l'occasion insisté sur le fait qu'il y a une véritable crise politique aux États-Unis qui est en train de prendre corps et qui va s'amplifier à partir de maintenant, puisque la campagne présidentielle est lancée et qu'elle va être furieuse. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Roselyne. Et on se retrouvera mardi
Merci
prochain.
Merci, Rose. Je voulais dire quelque chose, mais à la prochaine fois.